1, 2, 3.
Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kénéen.
Bonsoir, je suis Marina Devin.
Je suis Stanislas Nordet.
Ping pong. La culture sans limite. Oh, yeah.
Ce soir, dans Ping Pong, de la transgression et de la déviance, jamais par provocation, mais toujours par nécessité.
Avec le metteur en scène et comédien en mille expédients, Stanislas Nordet, qui ressuscite et se réincarne en un faiseur, non pas de miracle, mais de sacrilège, avec Je suis Fassbinder, de Falk Richter, qu'il met en scène avec l'auteur au Théâtre de la Colline jusqu'au 4 juin.
Et avec Marina Devant, écrivain, scénariste et réalisatrice, qui a fait de son corps un motif artistique et déteste qu'on dise qu'elle brise les tabous. Son dernier livre, Rose Minuit, chez Alia, nous parle d'un père, d'une fille et de sexe.
Ensemble, ils nous parleront d'audace et d'interdit, d'éros et d'anatos, mais aussi d'écriture et de politique.
Mathilde Serrel, Martin Kénéen, Ping Pong.
Elle est une femme bien sous tout rapport, réalisatrice et scénariste de films horrifiques avec Dans ma peau, Ne te retourne pas ou Dark Touch, mais aussi comédienne, écorchée ou armée d'un grand couteau comme chez François Ozon, et écrivain, auteur de récits de dépression ou d'addiction carabinée à toutes sortes de substances toxiques.
Lui est comédien, metteur en scène et directeur du Théâtre National de Strasbourg. Il a toujours défendu les œuvres contemporaines, le théâtre de l'aujourd'hui, celui qui brûle, comme du temps de Molière, qui s'écrit avec la scène et face au réel.
Et ce soir, elle, Marina Devant, nous visite avec, sortie de son fourreau, un nouveau roman, Rose Minuit, publié chez Alia, une histoire de haine et donc d'amour. Le récit d'un dernier duel entre un père et sa fille qu'il déteste et à laquelle, alité dans un hôpital, eh bien, il impose de relater sa vie sexuelle. Marina Devant, si on devait dresser un tableau, donner une couleur de ce rose minuit, on serait plutôt chez Balthus, que cite le personnage du père dans votre roman, ou chez Kawabata, dont je crois que vous appréciez les belles endormies?
Ah oui, j'aime beaucoup Kawabata, c'était mon grand amour d'adolescence. Mais je pense qu'on serait plutôt chez Balthus. Enfin, ça fait un peu prétentieux en même temps de revendiquer cette comparaison. Mais Balthus, d'abord, ça me paraît bien pour ce roman parce que c'est la première exposition que m'a emmené voir mon père, que j'ai adoré. Et ensuite, cette espèce de sensualité un peu vénéneuse, un peu hypocrite, un peu, voilà, me paraît plus du dans le ton de Rose Minuit où la sexualité est vécue un peu in effigie dans le langage et non pas dans la consommation.
Vous, Stanislas Nordet, vous êtes au Théâtre de la Colline. Vous y jouez jusqu'au 4 juin et mettez en scène « Je suis Fassbinder ». C'est une création à quatre mains avec le metteur en scène et dramaturge allemand Falk Richter. Il y a un côté poupée russe dans cette histoire ou poupée allemande. Donc, est-ce que vous pouvez reprendre le fil? Vous êtes qui, Stanislas Nordet?
Eh oui, c'est une bonne question. Bah, dans la manière dont Falk Richter a écrit, je suis Stanislas Nordet, je suis Falk Richter, je suis Fassbinder et peut-être bien d'autres. C'est la question du créateur, en tout cas du créateur qui cherche à être à la fois dans le collectif, puisque c'est l'histoire de Fassbinder, c'est l'histoire de Richter, c'est la mienne. On commence à faire du théâtre, on a un rêve de collectif et puis à un moment donné, le collectif se casse un peu la figure, donc on devient un dictateur, on le sait, on en souffre. On le revendique, on le cache. Voilà, donc le spectacle, en tout cas, flirte avec aussi ces questions-là de qu'est-ce que c'est que cette création qui pourrait être une belle histoire collective et puis qui souvent devient, peu ou prou, qu'on le veuille ou non, la prise de pouvoir d'un homme ou d'une femme sur un certain nombre de participants d'une création.
Alors, on va écouter Rainer Werner Fassbinder, justement, donc qui est à la fois metteur en scène et homme de cinéma. On est en 1977 dans un mini-documentaire pour le film collectif L'Allemagne en automne, dont il est beaucoup question dans votre spectacle, Stanislas Nordet. Nous sommes dans une cuisine. Fassbinder, blouson en cuir, discute démocratie avec sa mère, pull léopard.
Die Demokratie ist doch die menschlichste Staatsform, oder ist sie das nicht?
Du, es ist das kleinste aller Übel, nicht?
Das kleinste aller Übel?
Ja, im Augenblick ist es wirklich ein Übel.
Die Demokratie?
Ja.
Was wäre denn besser? Was Autoritäres?
Nein, bei uns im Moment, das Beste wäre so ein autoritärer Herrscher, der ganz gut ist und ganz lieb und ordentlich.
L'Allemagne en automne de et avec Fassbinder et sa mère, femme démocrate qui a vécu sous le Troisième Reich et qui lui dit tranquillement, en pleine crise terroriste de la bande à Bader, hein, qui est en fond historique puisqu'on est donc à la fin des années 70, qu'il faudrait à l'Allemagne un bon dirigeant autoritaire, gentil et juste. Stanislas Nordet, vous en venez donc à citer cette phrase dans votre spectacle « Je suis Fassbinder ». Pour l'écriture avec Falk Richter, vous avez énormément revu de films de Fassbinder. Pourquoi vous êtes arrêté sur celui-là et sur cette phrase de la mère ?
C'est un film assez incroyable. C'est un film qui doit durer 12 à 13 minutes, qui fait partie d'un film collectif, pour le coup, fait avec une dizaine de cinéastes allemands sur la question de la fraction armée rouge. Et Fassbinder se filme dans son appartement, dans son quotidien, avec sa mère, avec son amant, Armin aussi. Et donc c'est un film qui raconte l'entrelacement de l'intime et du politique, parce que Fassbinder c'était ça, le film est tourné, se passe pendant la nuit où Bader et Meinhof ont été suicidés dans leur cellule, et donc c'est cette angoisse première de Fassbinder, de est-ce qu'il est encore possible de parler politique pour un artiste, ou est-ce que lui aussi va être assassiné, qu'est-ce que sa mère pense de l'histoire récente, de l'histoire à venir. Et en même temps, il y a des scènes dans ce film incroyables entre lui et son amant, où effectivement, dans la vraie vie aussi, Fassbinder est un dictateur, frappe son amant devant la caméra. Enfin, c'est un film assez incroyable parce que je crois qu'il nous a touchés, parce que aussi bien Falk Richter que moi-même sommes fascinés par cet entrelacement dans l'art de l'intime et du politique quand les deux sont menés de front et assumés. Et le spectacle parle beaucoup de ça. Moi-même, dans mon travail de metteur en scène, je travaille souvent avec ma propre mère que je mets en scène. Donc cette question-là est une question qui nous travaille.
Marina Devant, il me semble qu'il y a aussi dans votre roman Rose Minuit, publié donc chez Alia, un entrelacement de l'intime et du politique. Il y a en tout cas un face-à-face, non pas entre la mère et son fils, mais entre le père et sa fille. Après avoir touché, je le disais, en vous présentant la question de la dépression, la question de l'addiction dans votre second roman Stéréoscopie, vous vous attaquez à cette relation trouble, ambiguë, on parlait de Balthus et de ses couleurs à l'instant, vous dites « j'aime toucher les interdits, les questions de cela » dans le dialogue entre le père et sa fille dans Rose Minuit, ce dispositif avec ce père alité à l'hôpital qui se sent mourir, qui se sent diminué et qui demande à sa fille de lui relater sa vie sexuelle, qui lui impose cela. Ça m'a fait songer, moi, personnellement, à Georges Bataille. Mais quels interdits, cette fois-ci, quel point névralgique, parce que je crois que c'est un mot que vous aimez, vous avez cherché à toucher avec Rose Minuit.
Mais je raisonne pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire que je sais pas, j'ai peut-être dit j'aime toucher les interdits, peut-être que c'est un goût que j'ai, etc. Mais quand je projette un film ou un livre, je me fais pas une liste comme ça de tabous que j'aimerais transgresser ou d'interdits auxquels j'aimerais toucher. C'est tout simplement une situation qui me parle, à un moment donné. Quelque chose aussi que j'ai trouvé amusant, puisque le père, il lui demande de raconter sa vie sexuelle, c'est pas seulement ça, il fait semblant de pas la reconnaître, il fait semblant d'avoir des séquelles de son AVC, parce qu'il peut pas la sentir, parce qu'elle est fonctionnaire. Donc c'est une situation qui au début, moi, me paraissait marrante, et au sein de laquelle, effectivement, il y a une érotisation du rapport qui parlait un petit peu des limites dans le rapport parent-enfant, et en tout cas d'une zone d'inconfort qu'on peut avoir expérimenté, que moi j'ai le sentiment d'expérimenter, enfin comme ça, un interdit qui est toujours un peu flou, qui peut toujours être mis à mal dans les mots, en tout cas, on parle pas de... C'est pas du tout une histoire d'inceste...
De violence physique, oui, mais c'est une grande violence, mais dans les mots.
Mais voilà, donc j'ai complètement perdu le fil de ma phrase. Oui, donc j'ai pas raisonné en termes d'interdit, mais il me semble que ça touche au... C'est-à-dire que moi, souvent, j'ai remarqué que les gens comprennent assez peu sur le thème de l'inceste, justement, que l'inceste n'est pas forcément un viol, n'est pas forcément une effraction, n'est pas forcément... Et que si des gens, à un moment donné, ont le sentiment d'avoir une enfance un peu trouble, un peu malaisante, un peu machin, on leur dit « mais ah oui, mais tu n'as pas été violée », enfin, c'est quelque chose que j'ai souvent vu au sujet des gens qui parlent comme ça de frontières qui n'étaient pas nettes, etc. Et donc, moi, j'ai voulu parler un petit peu de cette tension ou d'un inceste plus symbolique qui a lieu dans le langage et qui est une source d'angoisse pour l'enfant. Enfin, l'enfant même grandit, puisqu'en l'occurrence, elle a 40 ans. Donc, c'est sans doute l'interdit de l'inceste qui est en jeu là-dessus. Mais c'est pas vraiment ce qui m'a guidée. C'est ce dont je me suis rendu compte plus tard. Ce qui m'a guidée, c'est que ça me faisait vraiment rigoler. Qu'il fasse semblant de pas la reconnaître et que j'ai un petit peu déliré. J'avais la dernière fois que j'ai vu mon père avant qu'il meure, c'était à l'hôpital. J'ai un petit peu imaginé la situation épouvantable qui aurait pu m'arriver si par hasard mon père avait eu la fantaisie de me faire passer par les fourches codines de son imagination. Donc j'ai mixé en fait la mort de mon père avec la mort d'un ami à moi qui m'a demandé de venir le voir en jupe alors qu'il était mourant dans une chambre stérile, et j'ai eu l'idée de sa situation qui m'a attirée pour sa cocasserie, quoi.
Il y a des allers-retours dans la réalité et la création chez Marina Devant comme chez Fassbinder. C'est ce que vous aimez dans son travail, Stanislas Nordet. On peut dire que c'est un peu un père artistique. Alors, je sais pas si vous avez eu des relations même post-mortem incestueuses par les mots avec lui, mais en tout cas, Fassbinder, donc faut le rappeler, c'est une figure trash, transgressive, radicale du théâtre et du cinéma allemand. Il est très connu là-bas, pas tant que ça en France. Du coup, ce Fassbinder que vous avez écrit avec Falk Richter et que vous interprétez sur scène, vous avez eu envie de le prendre comment?
Avant tout, c'est pas un biopic, hein. C'est-à-dire, voilà. C'est pas la vie de Fassbinder. C'était plus quand on est parti de là. Alors, pour l'anecdote, Falk Richter, sa vocation, on va dire, il a eu envie de devenir artiste après avoir vu une rétrospective de tous les films de Fassbinder à 17 ans. C'est-à-dire que là, il s'est dit, il y a quelque chose de possible. On peut faire quelque chose. Ça a ouvert une porte chez lui. Après, la figure de Fassbinder. Moi, je la trouve importante parce que c'est quelqu'un qui regardait le monde qui l'entourait. Enfin, Fassbinder, il fait l'année des 13 lunes. La question du transgenre, elle tourne déjà à ce moment-là. Il fait Tous les autres s'appellent Ali. C'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup un moment où il regarde sa société, même sur la question du couple. C'est-à-dire, on le traduit dans le film, dans le spectacle.
Où il y a des images aussi.
Il y a aussi des images, mais la question du couple, c'est-à-dire Fassbinder met en scène énormément de couples d'hommes dans ses films pour raconter l'horreur du couple, y compris dans le couple d'hommes et pas simplement dans le couple hétérosexuel. Donc il y a toujours eu chez lui comme ça un regard pour moi extrêmement acéré qui ne s'interdisait rien. Et quand on a commencé le spectacle, à rêver le spectacle avec Falk Richter, on se demandait si ces figures-là pouvaient encore exister, comment elles pouvaient exister, et particulièrement après les attentats, après Charlie, après etc., toutes ces questions-là, est-ce qu'on s'autorise à tout dire ou est-ce qu'on ne s'autorise pas à tout dire quand on est un artiste aujourd'hui? Donc le spectacle interroge aussi cette chose-là. Après, je reprends ce que disait Marina sur le cocasse aussi. La question, c'était pas de faire un spectacle à thèse, c'était aussi de Fassbinder est une figure qui est aussi joyeuse, loufoque. C'est pas simplement l'ombre, etc. C'est quelqu'un qui avait énormément d'humour. Donc le spectacle aussi essaye d'une certaine manière de témoigner des années Fassbinder, de ces années-là aussi, des années 70, qui pour moi ça veut dire quelque chose. Les années 70, c'est un moment où il y a énormément de choses qui circulent à tout point de vue d'ailleurs, y compris les substances, mais tout. Et voilà, est-ce qu'aujourd'hui on est dans des années qui sont des années plus sages? Est-ce que voilà, qu'est-ce que c'est que ce temps-là? Alors mon père, à moi, on va dire spirituel en cinéma, en littérature,
que c'est Jean-Pierre Mocky. Votre père, c'est non,
oui,
quand non, même.
Mon père, c'est Jean-Pierre Mocky, mais ça, c'est autre chose. Mais mon vrai père spirituel, c'est Pasolini. Et le père spirituel de Falk, c'est Fassbinder. Donc, c'est Falk qui écrit. Donc, on s'est attaché à la figure de Fassbinder, que je connaissais un peu, mais pas si bien que ça, parce que, comme vous le disiez, en France, on connaît Fassbinder particulièrement à partir du moment des derniers films, Le mariage de Maria Braun, etc. Mais on connaît finalement pas toute l'aventure théâtrale qu'il a menée, l'antithéâtre. Il a créé un mouvement qui s'appelait l'antithéâtre, et puis ensuite tous les premiers films qui sont le prolongement vraiment de son aventure collective avec les acteurs de l'antithéâtre. Et c'est des films d'ailleurs qui, à mon sens, vont beaucoup plus loin que les films qu'on connaît plus, comme Lili Marlène, Querelle, etc. en France. Mais derrière ça, c'était l'idée de faire un spectacle qui puisse parler aussi à plusieurs générations, puisque l'enjeu, c'était que ça puisse éveiller des choses chez les gens qui ont connu les années Fassbinder et tout ça. Mais aussi, notre enjeu, c'était de faire un spectacle qui parle à la jeune génération. C'est-à-dire, on peut voir un spectacle sans rien connaître de Fassbinder. C'est un point de départ, Fassbinder.
<t'->
Des années 70, de Fassbinder, aux années 80, des Berruriers noirs, J'ai peur, 1984, de la peur. Il y en a dans le cœur de ces chanteurs punk français, mais il y en a aussi un peu partout, dans votre travail, dans votre œuvre, Marina Devant, que ce soit au cinéma où vous cultivez votre goût pour la peur, pour l'inquiétude, et puis de la peur, de l'angoisse, c'est le mot que vous avez employé. Il y en a dans Rose Minuit, ce nouveau roman. C'est la peur de ce père, de se retrouver comme ça, diminué, alité à l'hôpital. La peur de sa fille pour les violences symboliques qu'elle a subies dans son éducation de la part de ce père. Et puis, il y a cette confusion que vous décrivez entre l'émotion sexuelle et la peur. Un peu plus loin, vous évoquez à nouveau, vous associez l'émoi et la crainte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi, pour le personnage de Florence, et peut-être pour vous, ces deux émotions, ces deux affects ont partie liée ?
Pour tout vous dire, j'espère ne pas raconter quelque chose de déplacé, mais quand j'avais 6 ans, j'ai découvert la masturbation. Et à ce moment-là, en fait, j'ai écrit une lettre que j'ai mise dans une enveloppe intitulée « Pour les médecins de France », où j'ai expliqué que j'avais découvert le centre de la peur. Et donc, j'ai fait un schéma du sexe féminin tel que je le percevais avec mon corps de petite fille, pour expliquer. C'est-à-dire que je ne faisais vraiment aucune différence entre l'excitation que j'associais vraiment à la peur. Voilà, donc pour l'anecdote, moi j'ai toujours trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose de très semblable. C'est peut-être, ça s'explique peut-être chimiquement par l'adrénaline ou je ne sais pas. Ça n'évolue pas forcément, je pense pas que ce soit lié seulement au masochisme. Mais je crois qu'il y a quelque chose du bouleversement, des repères, du sentiment de la perte de contrôle qu'on éprouve devant un homme ou une femme qui nous plaît, et qu'on éprouve s'il y a un tigre qui surgit. Enfin bon, toute proportion gardée, je préfère que ce soit un être humain. Mais en tout cas, la peur, moi, au cinéma, alors de manière assez différente, c'est un sentiment qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est... Moi, je suis très trouillarde, j'ai peur d'à peu près tout, j'ai peur des araignées, j'ai peur de toutes sortes de choses.
Des dinosaures,
de Spielberg. Des dinosaures, et c'est vrai qu'au cinéma, c'est un espace de jeu. Alors, je crois pas... Là, je sens pas d'érotisation spécialement au cinéma quand j'ai peur, mais disons que c'est une émotion forte, archaïque, que dans un espace protégé, je trouve amusant d'éprouver, et qu'en tout cas, j'ai plus d'habileté à susciter que peut-être une émotion plus profonde. C'est profond, la peur, mais je veux dire quelque chose de plus sentimental où je suis moins à l'aise. Donc c'est vrai que dans mon cinéma, à travers plus l'angoisse, l'inquiétude que la peur massive, parce que j'ai pas vraiment fait des thrillers, j'ai fait un seul film d'horreur, les autres étaient plus dans le registre de l'étrange, mais c'est vrai que c'est un sentiment que j'aime bien, voilà.
La peur, c'est important dans le spectacle aussi. Je suis Fassbinder, et dans sa démarche, il y a une scène avec Judith Henry. Elle est poursuivie par vous, Stanislas Nordet, qui êtes en même temps Werner Fassbinder, parce qu'elle n'arrive pas à dormir la nuit. Alors il lui dit, mais qu'est-ce que t'as? C'est ta mère, c'est ton angoisse d'être seule, d'être envoyée dans ton tout petit toit qui n'est pas avec les autres et qui ne sait plus. Bref, il parle de la peur, Fassbinder, Stanislas Nordet, comme un élément finalement qui gangrène autant la société que les rapports humains. Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il faut en faire? Faut l'affronter, en tout cas faut la faire sortir.
Son précédent spectacle, il a fait un spectacle au théâtre de la Schaubühne à Berlin, s'appelait Fear, la peur donc. Mais alors là, qui est la peur de la résurgence, il met en scène dans Fear des...
Ah là, c'est Falkrichter et pas Fassbinder.
Il met en scène Marine Le Pen et tous les dirigeants d'extrême droite, et à côté, il projette des zombies qui sortent des cimetières, etc. C'est-à-dire la résurgence, le retour des morts vivants. Donc cette question de la peur, c'est la peur face à tout ce qui nous échappe, à tout ce qui nous échappe à la fois dans la société, dans le politique, dans notre histoire contemporaine, et à tout ce qui nous échappe aussi dans le couple, dans nos relations amoureuses, tout ce qu'on ne maîtrise pas, la peur, la confusion. Et le spectacle traite aussi beaucoup de ça, mais ça aussi en écho à Fassbinder, c'est-à-dire que la plupart des films de Fassbinder racontent des relations de couple extrêmement violentes, hein, où les hommes frappent les femmes, où tout d'un coup il y a cette violence qui est caractérisée et qui ne cesse pas, qui ne cessera jamais. Donc ce thème de la peur, en tout cas chez lui, chez eux, chez Fassbinder et chez Falkrichter, se décline constamment. Donc il y a d'ailleurs une partie du spectacle qu'on appelle entre nous la nuit de la peur, qui est ce moment où tous ces personnages sont seuls chez eux et voient le sol s'effondrer sous eux, à la fois de leur rapport au monde et de leur rapport à l'autre. Voilà, parce que les personnages de Fassbinder et les personnages de Falkrichter sont souvent des gens guettés par la solitude et par la disparition de l'autre ou des autres dans la relation amoureuse.
Il y a de la violence. Il y a partout de la violence. Ils étaient des milliers au Nouvel An à Cologne, et Merkel nous les ramène. Mais elle a des gardes du corps, il ne lui arrive rien. Mais nous. La plupart des viols perpétrés sur des femmes allemandes ont toujours lieu à l'intérieur du mariage. Et jusque dans les années 90, notre Union démocratique chrétienne s'est battue avec acharnement pour que le viol conjugal ne soit pas considéré comme un délit. Et maintenant, tu ne peux pas faire un pas sans lire tous ces posts haineux et commentaires excités et toute cette merde que tous ces nouveaux nazis dans leur parti de merde, répugnants et nationalistes, écrivent et disent soudain que tous les Arabes doivent partir juste parce que quelques hommes hétéros, criminels et bourrés sont devenus dingues à la gare le soir du réveillon. Je veux dire, c'est peut-être ça le problème. Les hommes hétérosexuels, ou le machisme, ou la folie religieuse, ou la réduction de la femme à un pur objet sexuel, je veux dire, tu as ça partout.
Oui, mais ils font tout ça en pire stable.
Rainer,
mon Dieu, oui, Rainer. Ces réfugiés qui, mon Dieu, sont là, dans leur camp, à regarder des pornos sur Internet. Et ensuite, ils voient des femmes qui passent. Et alors, ils croient que ce sont toutes des putes. Il faut bien que toute leur testostérone, tout leur sperme aille quelque part.
Maman,
ils veulent faire gicler leur sperme dans les femmes allemandes par la violence. C'est une sensation folle de puissance et de triomphe quand ils remplissent nos femmes chrétiennes blondes de leur sperme.
Maman!
Vous êtes à l'intérieur de cette pièce « Je suis Fassbinder ». Attention, c'est un extrait effectivement qui peut heurter la sensibilité du public. Vous êtes Stanislas Nordet, Rainer Fassbinder sur scène. C'est une pièce qui intègre des événements récents, on l'entend, puisqu'il s'agit de la nuit des viols, jour de l'an à Cologne. Vous l'avez écrit à quatre mains avec Falkrichter, dramaturge et metteur en scène allemand. Comment ça s'est passé, cette écriture? Et pourquoi c'était important pour vous qu'à la première représentation, personne n'ait encore lu une seule ligne du texte?
Je crois que ça, c'est vraiment Falkrichter pour qui c'est important d'écrire jusqu'à la dernière minute. C'est-à-dire que au début des répétitions, la moitié du texte n'était pas encore écrite, ce qui est rare. Hein. Ça s'est écrit très tard. C'est d'ailleurs pour ça que le spectacle parle de Cologne, parle de la mort de David Bowie, etc. Donc, le processus d'écriture est un processus qui va vraiment jusqu'à la première. Après, il était important. C'est la première fois que une des premières fois qu'il écrit en France. Habituellement, il écrit en Allemagne. Donc, il y avait l'idée de travailler sur une distance. On voulait écrire sur aujourd'hui, sur l'actualité, mais on ne voulait pas écrire sur le 13 novembre, on ne voulait pas écrire d'abord sur les attentats. Donc, tout d'un coup, le 31 décembre, Cologne, les agressions sexuelles, etc., c'était tout d'un coup une manière de créer à la fois une distance avec la France, parce que Cologne, c'est là et c'est pas là, à la fois. C'est proche et c'est loin. Donc, ça permettait aussi d'avoir un effet de loupe qui soit un petit peu différent. Et après, dans le processus de travail, dans la genèse, il y a beaucoup de travail, beaucoup de discussions avec les acteurs. Ça s'écrit à partir des acteurs. Il y a beaucoup d'improvisation. Falk réécrit le monologue final. Falk me l'a donné une semaine avant la première, donc tout d'un coup, il y a quelque chose qui est très vivant.
Sur l'Europe, non.
Voilà, dans le processus d'écriture, il y a quelque chose qui est très vivant et qui, je crois, donne au public cette sensation d'immédiateté, parce que, en tout cas, c'est ce que le public nous renvoie, de cette sensation d'immédiateté. Alors, ça parle de l'actualité, ça parle d'aujourd'hui, mais c'est un spectacle qui a une poétique aussi, hein, il y a une vraie écriture derrière, mais c'est un spectacle qui essaye d'être écrit jusqu'à la dernière seconde pour que le public ensuite entende. Et après, ce qui est intéressant, c'est que ça nourrit. Je vous donne l'exemple de la représentation d'hier soir.
C'était la première.
La question était on parle beaucoup d'agressions sexuelles dans le spectacle. Et puis, il y avait l'histoire qui venait d'arriver de ce député français serré par les agressions sexuelles. Évidemment, à ce moment-là, tout le public et nous sur scène, on pense à ça. Mais c'est pas écrit. Ça rebondit comme ça sur l'actualité immédiate. immédiate.
Marina Devant, dans ce dialogue entre le père et sa fille dans votre roman Rose Minuit, il y a cette question de savoir si cette femme continue à rendre visite à son père pour réparer quelque chose ou pour se faire souffrir ou pour le faire souffrir. Vous, dans votre écriture précisément, parce qu'on parle d'écriture à l'instant avec Stanislas Nordet, est-ce que vous cherchez à réparer avec vos récits, réparer quelque chose, peut-être dans votre histoire, où vous cherchez à vous faire du mal?
Écrire ou détruire? Faire du mal, certainement pas, parce que je suis plutôt guidée dans ma vie par le plaisir. Après, vous pouvez le trouver tordu.
On peut se dégrader à plaisir aussi.
Ah oui, non, alors non, enfin, je réparer quelque chose, je sais pas non plus, c'est possible. Mais moi, c'est un peu comme pour votre question de tout à l'heure, c'est-à-dire je réagis à une stimulation très immédiate qui est « tiens, ça me fait marrer, tiens, ça va être intéressant à... » Mais je n'analyse pas moi-même d'où ça émane, donc il se peut que je cherche à réparer quelque chose. C'est vrai que en l'écrivant, j'ai beaucoup pensé à mon père et pourtant le personnage n'est pas du tout mon père. J'ai un peu imaginé des choses. Donc est-ce qu'à travers ça, j'ai transposé des... Tout ça, je l'ignore. Donc il faudrait que j'en parle peut-être avec une psy ou quelque chose comme ça,
Mais vous savez que vous touchez à des choses malaisantes, pour reprendre un
mot.
Non,
alors ça, j'en ai pas vraiment conscience, en fait, pour tout vous dire, parce que parfois, j'écris quelque chose ou je fais un film et on me dit « Ah, c'est violent », etc. J'en ai aucune conscience, donc peut-être que j'ai une sensibilité un peu féroce, que je n'analyse pas, dont je ne connais pas l'origine et que dont je n'ai pas conscience. Moi, je suis un petit peu ce que je trouve beau, ce qui m'amuse, ce qui me fait rire. C'est-à-dire que quand vous écrivez, vous en prenez quand même pour quelques mois. Il faut quand même que ce soit une partie de plaisir. 1, 2, 3.
Vous écoutez Ping Pong, l'émission qui aime le plaisir jusque dans sa férocité.
La famille, le théâtre et la politique, c'est la trinité de la deuxième partie avec nos invités Stanislas Nordet et Marina Devant.
Mais tout de suite, il est l'heure de retrouver Zoé Svez pour le journal de la culture. Bonsoir Zoé.
Bonsoir Zoé.
Bonsoir Martin, bonsoir Mathilde.
Zoé, vous consacrez ce soir votre dossier à la figure de François Morlaix, l'artiste qui fut l'un des chefs de file du mouvement minimaliste, s'est éteint à 90 ans.
Oui, on l'a appris aujourd'hui, François Morlaix s'est éteint à 90 ans, cette nuit, dans son Anjou natal, dans la petite ville de Cholet. Petite ville que finalement, il n'aura jamais quittée depuis sa naissance. Dans les années 20, lui qui pourtant inventa, on peut le dire, l'art minimaliste aux côtés de monstres sacrés comme Ellsworth Kelly, lui qui fut très vite célébré en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne, mais qui a mis plusieurs années à être reconnu à sa juste valeur en France, son pays natal, où son œuvre a quand même fait l'objet de deux grandes rétrospectives au Centre Georges Pompidou, notamment la dernière en 2011, et où le Louvre, privilège immense pour un artiste contemporain, lui a commandé une œuvre, l'Esprit d'escalier, en 2010. Rien ne prédestinait ce petit homme de province à une telle carrière, si ce n'est, dès l'enfance, cet amour pour le jeu, le décalé, l'Oulipo, Pierre Dac. Kamel Menour, son dernier galeriste, nous le décrit d'abord et avant tout comme un être facétieux.
C'est quelqu'un de très facétieux, donc démarre tout jeune, début 50, hein, tout de suite contre un petit peu la doxa de l'école de Paris, avec déjà son écriture extrêmement minimale, voire géométrique. Il est vraiment tout à fait singulier dans sa manière de faire, d'être, et même dans sa façon d'exister. Il n'est pas à Paris, hein, il n'a jamais voulu écouter les sirènes de vivre dans la capitale. Il est resté une sorte de bourgeois de province, qui vient d'une famille assez bourgeoise, et avec beaucoup de liberté, de poésie, de facétie. Je revois en fait François me dire avec sa petite voix d'enfant, parce qu'il était extrêmement jeune dans sa voix et dans sa manière d'être, que la directrice du MoMA venait le visiter dans son bled à Cholet. Il avait non pas de la fierté, mais plutôt ça le faisait rire qu'une directrice de musée, le MoMA, l'un des plus grands musées au monde, sinon le plus grand, vienne le voir lui, l'artiste français, à Cholet.
Même attachement et même stupeur, Zoé, pour François Morlaix, chez la conservatrice en chef du Macval, Alexia Fabre.
Oui, alors elle se dit très touchée par la perte d'un être qui va nous manquer. Le mot revient sans cesse, même si personne ne s'étonne de cette disparition à 90 ans. La disparition de François Morlaix, lui qui revendiquait le fait de jouer toujours avec des règles les plus absurdément logiques possibles, qui réclamait aussi le droit à considérer l'indifférence, le manque de subjectivité comme les qualités premières d'un artiste. artiste, eh bien, ce François Morlaix avait tout de même une grâce, une inventivité géniale qui touchait dans ses œuvres les plus célèbres. Quelques néons enchevêtrés seulement dans l'Avalanche, qui était une majestueuse installation en 96. Deux poutres en bois contre l'angle d'un mur, mais extrêmement bien mise, carré à demi libéré. C'est une œuvre de 1990. En tout cas, pour la conservatrice en chef du Macval, Alexia Fabre, tout ce génie, eh bien, François Morlaix le devait à sa personnalité éminemment singulière.
Il a eu une longue, grande et belle vie d'artiste, parce qu'il a eu, je pense aussi, une grande et belle vie d'homme. Voilà, c'est quelqu'un qui a tenu l'art à distance dans sa vie, et en même temps qui n'a eu de cesse de toujours placer l'art dans la vie. Une grande partie de sa vie, il est resté chef d'entreprise à Cholet. Il a hérité de l'entreprise familiale. Néanmoins, il a été un des inventeurs de l'art géométrique, de l'art minimal, en même temps que les artistes américains. Son grand projet, c'est vraiment cette relation entre l'art et la vie. Et il y a travaillé dès les années 60 avec ses complices du GRAV, du groupe de recherche d'art visuel, des artistes souvent sud-américains qui, comme lui, maniaient l'humour, l'ironie, et justement amener l'art au plus près des gens, dans les prises uniques, dans la rue, fabriquant des lunettes pour voir le monde autrement. Donc il y a vraiment ce rapport qui dédramatise l'art contemporain, mais surtout qui fait une place aux visiteurs, aux spectateurs.
François Morlaix, qui donc a disparu, mais son œuvre reste, elle est visible dans quasiment toutes les grandes institutions françaises, évidemment au Macval, mais aussi au Centre Georges Pompidou, au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris et évidemment au Louvre.
On passe au bref Zoé sous le signe du trône de fer.
Et oui, l'auteur américain George R.R. Martin, j'espère que je le dis bien, c'est l'auteur
R.R.
de Game
Martin.
Of Thrones, a publié un chapitre du nouveau volet de la saga Game of Thrones. Cette fameuse saga, ce nouveau volet attendu, puisque je rappelle que depuis 2012, l'écrivain de 67 ans a déjà publié plusieurs passages de ce nouveau livre qui s'appellera The Winds of Winter, les vents de l'hiver. Je rappelle que depuis 96, il a publié 5 tomes de Game of Thrones, le dernier en 2011. Il avait déjà laissé passer 6 ans entre le quatrième et le cinquième tome. La sixième est donc extrêmement attendue, mais il a encore indiqué fin octobre eh bien, qu'il était toujours en retard dans son échéance. La sixième saison, qui a commencé à être diffusée il y a 2 semaines, eh bien, c'est la première fois que cette saison eh bien, n'est pas calquée sur cette saga et donc nous dévoile l'histoire sans qu'on la connaisse du tout.
La démocratie, c'est tellement surfait. L'équipe de la série à succès House of Cards se moque de Manuel Valls.
Oui, Manuel Valls, Democracy is overrated. La démocratie, c'est surfait. C'est le slogan de la série House of Cards qui a donc tweeté ça sur le compte de Manuel Valls, en faisant référence évidemment au passage en force de la loi El Khomri avec le 49-3. Le Premier ministre a fait bonne figure en répondant une heure plus tard avec un « Dear Frank, democracy is the worst form of government, except of all others. Cher Frank, la démocratie est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres.
Pourquoi cher Frank ? Parce que Frank Underwood, a.k.a. enfin alias Kevin Spacey, c'est le héros d'House of Cards.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
Je suis Fassbinder, c'est pas moi qui le dis, c'est une pièce de théâtre que vous pouvez voir en ce moment à Paris, à la Colline, jusqu'au 4 juin. Il y joue, il la met en scène, Stanislas Nordès, c'est notre invité avec Marina Devant dans cette deuxième partie. On va écouter un extrait, il s'agit beaucoup d'Europe et d'Europe qui bascule.
Je ne suis pas Charlie, je ne suis pas en terrasse.
Je suis Charlie, je suis en terrasse. Et quand j'y suis et que soudain, 4 jeunes arabes à l'air un peu dangereux passent, j'ai peur et ça me dégoûte. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas avoir peur. Je ne veux pas avoir peur, mais parfois j'ai peur.
Je ne veux pas avoir peur.
Je ne peux pas avoir peur. Je suis ce jeune de 15 ans qui habite à Montfermeil et qui n'a pas d'argent pour aller à Paris en RER boire du champagne la nuit en terrasse place de la République avec ses amis et qui pense. C'est bien fait pour vous, riche glandeur de merde. Maintenant, vous voyez enfin ce que c'est que de vivre dans l'insécurité, d'avoir toujours peur. Parce qu'à tout moment, quelque chose d'atroce pourrait arriver. Ne faites pas les innocents. Vous n'êtes pas les victimes. Vous êtes les bourreaux. Vous êtes les bourreaux. Espèce d'intellectuel de merde. Je n'ai jamais été à l'opéra, ni à l'Odéon, ni au moindre vernissage. Je ne sais même pas ce que c'est. Je ne suis pas en terrasse. Je ne suis pas Charlie. Ma mère fait le ménage chez vous. Mon père est bourré et regarde votre télévision de merde que vous produisez exprès pour des gens comme nous, pour qu'on ferme nos gueules et qu'on n'aille pas dans les rues pour tout casser, pour que la merde des banlieues ne fomente pas de révolution. Mais maintenant, on est là et on ne partira pas.
La musique, c'est Our Love de Gunther Kaufmann, que vous retrouvez dans un film de Fassbinder, Le Soldat américain, que vous retrouvez aussi chanté par les comédiens de Je suis Fassbinder au Théâtre de la Colline à Paris. En ce moment, Stanislas Nordet, on peut parler de théâtre de l'aujourd'hui et pas de théâtre documentaire. Je crois que vous aimez bien cette distinction en tant que directeur du Théâtre National de Strasbourg. Qu'est-ce que vous ressentez justement par rapport à l'urgence d'imposer ces textes contemporains, des textes de sismographes, comme se décrit Fassbinder, et pourquoi il faut prendre ce risque ?
Bah d'abord, moi je pense qu'il faudrait interdire le patrimoine au théâtre, c'est-à-dire que Molière, Shakespeare, on n'en peut plus, Tchekhov non plus, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il faut parler d'aujourd'hui avec les gens qui écrivent aujourd'hui, et moi je suis toujours très énervé par les gens qui disent je monte, je sais pas, Jules César de Shakespeare, et ça parle de Wall Street aujourd'hui, etc. J'y crois pas du tout, c'est-à-dire on parle d'aujourd'hui avec les mots d'aujourd'hui. Donc ça, il y a une vraie volonté chez moi qui a toujours été là de faire du théâtre avec les mots d'aujourd'hui. Ça, c'est une première chose. Je dirais que il me semble que pour le public aussi, il y a ce regard-là, par exemple. Ça me frappe toujours, on emmène énormément de jeunes gens par l'école, voir des spectacles, au théâtre, de plus en plus, et on les emmène toujours voir du patrimoine. Si on les emmène voir Andromaque de Racine, on les emmène, etc. Et on s'aperçoit que finalement, tous ces jeunes gens reviennent assez peu au théâtre, après, quand ils sont pas obligés d'y aller. Et peut-être que c'est aussi parce qu'on les emmène pas voir quelque chose qui est un peu brûlant, qui est vivant de cette manière-là. Donc, ça, c'est important pour moi. Après, je dirais que on m'a beaucoup posé la question sur ce spectacle. Est-ce que c'est un spectacle politique, etc. Moi, je crois pas que le théâtre change le monde. J'ai jamais cru à ça. Pour changer le monde, on descend dans la rue, quoi. S'il y a comme ça qu'on peut éventuellement changer le monde,
Sauf qu'on est incapable de changer, il faut au moins le décrire, disait
voilà. Et par contre, j'ai l'impression que le théâtre, a une fonction d'éveil, de veilleur. C'est-à-dire qu'il peut nous maintenir en éveil. Je pense pas qu'en sortant d'une salle, on va faire quoi que ce soit de politiquement, mais par contre, ça permet de réactiver des choses, de faire circuler de la parole, donc de faire circuler de la pensée. Et à partir de ce moment-là, y a une manière de se sentir toujours un petit peu vivant. Donc c'est pour ça que en parlant du spectacle, je pense que c'est un spectacle qui parle d'aujourd'hui. C'est pas un spectacle didactique, c'est pas un spectacle qui dit voilà ce qu'on doit faire. Falk Richter et Fassbinder, d'ailleurs, aimait pas du tout Brecht pour ça.
Richter qui coécrit avec vous et Fassbinder, donc qui est l'objet, voilà. Le culte.
Parce que tous les deux pensaient que Brecht avait cette fâcheuse tendance à dire au public ce qu'il fallait penser. Ce spectacle-là, je pense pas qu'il est de cet ordre-là. En tout cas, il ne veut pas l'être. Par contre, il pose des questions. Et la plus belle récompense, en général, à la fin du spectacle, c'est que les gens ont plutôt beaucoup envie de parler entre eux. Et ça, c'est une jolie petite victoire pour nous, en tout cas. Et les gens sont pas d'accord aussi. Tout à l'heure, on parlait de malaise, je crois. Moi, je pense que toute forme d'art doit déranger quelque chose, déplacer quelque chose. Et que sinon, il me semble que ça peut être un peu vain. Je crois que l'émotion forte, elle vient du moment où on sort de la case, on sort de ce qui est attendu et où on est dans le trouble. La question du trouble, je trouve, c'est une belle question.
Il y a du trouble. À n'en pas douter aussi dans votre roman Rose Minuit, Marina Devant, dans cette relation trouble donc entre un père mourant et sa fille de 40 ans à qui il impose un certain nombre de sévices moraux et intellectuels sous prétexte de renouer le dialogue. Mais je vous entendais, je vous observais, regardais et écoutais attentivement Stanislas Nordet. Vous vous rendez compte de ce qu'il raconte quand même sur le patrimoine ? Sur les vieux, Molière, Shakespeare, qui veut envoyer au rancard, au placard. Est-ce que vous pourriez nous raconter la théorie que développe votre personnage de vieil homme, Monsieur Presson, à propos des jeunes? Il a toute une théorie politique sur la mort,
oui,
qui serait un complot politique des jeunes contre les vieux.
Oui, ce qu'il dit, c'est que... Alors, je ne me rappelle plus exactement ce qu'il dit, mais qu'il me semble qu'à l'ère de la fission nucléaire ou atomique, des voyages sur la Lune, sur Mars bientôt, etc., il ne croit pas du tout à la mort. Il croit que la mort est, toute mort est un assassinat. qu'il a cette formule, toute mort est un assassinat, et qu'on pousse vers le caveau ce qu'on juge comme des déchets, c'est-à-dire ces vieux qui servent plus à rien, simplement pour que les autres puissent aussi...
Que les jeunes puissent occuper la scène.
Voilà. Et que, en tout cas, il ne croit pas du tout que ce détail, ce qui lui paraît un détail, cette mort, un détail biologique, il croit pas que ce soit toujours d'actualité. Bon, enfin, de là à en faire une théorie politique, c'est peut-être un peu...
Ouais. Mais au-delà de ça, il y a quand même, me semble-t-il, mais peut-être...
C'est-à-dire que c'est un personnage qui vit extrêmement mal, c'est-à-dire pendant tout le roman, je voulais aussi parler de cette difficulté qu'on a aujourd'hui à accepter des choses très naturelles comme le vieillissement, comme éventuellement aussi la laideur, comme... voilà. Et donc, c'est un homme qui est entièrement traversé par les diktats de jeunesse, de séduction, donc il les applique aux femmes, avec une misogynie assez ostentatoire, en trouvant qu'une femme passée 40 ans, c'est indécent. C'est effectivement une idéologie courante, le jeunisme, etc. Et c'est aussi de ça que je voulais parler, parce que ça me paraît une source de souffrance qui est massive aujourd'hui, chez les hommes, chez les femmes, cette façon de ne jamais être satisfait de sa condition, parce qu'on vous propose toujours des modèles absolument inatteignables qui ne coïncident pas avec ce que vous êtes, et qui coïncident de moins en moins avec ce que vous devenez. Donc cet homme, il est dès le départ... en colère, et c'est aussi une des sources de son agressivité à l'égard de sa fille, il est en colère contre la maladie, cet AVC qui lui paraît une aberration, contre la mort qui le guette et dont il pense qu'elle est désirée par les autres parce qu'il n'arrive pas à accepter le fait que c'est juste une issue naturelle, et contre les jeunes dont il est jaloux quand il y a un médecin qui rentre, qui est un quarantenaire fringant, il trouve que c'est odieux, il trouve qu'il devrait... Moi j'ai entendu un copain à moi, de passé 70 ans, qui un jour, dans une soirée, m'a désigné un mec de 40 ans qui était en train de draguer des filles avec beaucoup de succès et qui m'a dit « Tu vois, c'est dégueulasse, c'est moi qui devrais être lui ». Et ça m'avait frappé parce qu'il a été lui dans le et ce garçon sera un septuagénaire. Donc j'avais envie de parler de ce qui me paraît à la fois à nouveau une source de comédie, enfin moi ça me faisait rire, et en même temps une souffrance que tout un chacun expérimente un peu et que j'ai poussé à l'extrême chez ce personnage de vieillard.
Mais est-ce que Stanislas Norden ne participe pas effectivement à sa manière au complot des jeunes contre les vieux? Parce que vous essayez d'aller loin dans la représentation du monde d'aujourd'hui, que ce soit à la fois sur la scène, mais dans la distribution, aussi dans le public. C'est une action que vous menez, ça, que ça soit enfin un théâtre reflet du monde contemporain?
Après, la question, c'est toujours qu'il n'y ait pas une partie de la société qui confisque voilà tous les outils finalement, parce que la question en tout cas du théâtre, pour parler largement, hein, c'est que le théâtre public dans lequel je travaille est quand même confisqué entre guillemets par une certaine génération. C'est on le sait, c'est plus les plus de 50 ans qui vont au théâtre pour aller vite. Super qu'ils soient là, mais que ce soient pas les seuls et qu'il y ait quelque chose qui circule. Et pour ça, il me semble que mais la question du patrimoine, je trouve que c'est une question intéressante. On met beaucoup d'argent dans le patrimoine. Ok. Après, quand on sort de l'Europe, quand on va, je sais pas, en Corée du Sud, à Séoul, et qu'on voit même architecturalement ce qui se passe, la question du patrimoine, elle n'est pas première. La question, elle est tout d'un coup d'être là, de construire l'aujourd'hui. Et que cette question-là, je trouve, c'est une belle question, à tout point de vue, dans tous les arts. Et dans le théâtre, en tout cas, la question du patrimoine, elle est très, très présente. Peut-être moins dans le cinéma, par exemple, où, finalement, on parle de vieux films. Voilà, je sais pas, quand on va voir un western des années 50, on dit on va voir un vieux film. Bah, quand on va voir une pièce de Shakespeare, on dit pas je vais voir une vieille pièce. Et pourtant, hein. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui, et pourtant, c'est le cas. Donc, il y a quelque chose à faire. Et ça, moi, je le fais depuis toujours par goût aussi. Moi, j'ai toujours aimé, la peinture. J'aime la peinture à partir de 1950 et pas avant. Ça me touche plus. J'aime la musique, à partir de 1950 et pas avant. Ça me touche plus, une œuvre de Xenakis ou de Boulez qu'une œuvre de Mozart, je sais pas comment dire. Donc j'ai toujours un goût, moi, pour l'aujourd'hui, pour ce qui se fait autour, pour ce qui s'invente autour. Je trouve que la vie, elle est là.
Ping-pong.
Le disque du jour, comme son nom l'indique, ne sera pas un vieux disque post-1950 et même de 2016, Zoé Sfez.
Ben non, c'est un grand disque d'un très 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 grand groupe qui fut grand et qui le reste, on le sait aujourd'hui, grâce à ce nouvel album qu'il sort, le nouvel album de Radiohead. Aujourd'hui, les un rock titrés, Radiohead a influencé toute la pop de ces 30 dernières années. Moi, j'ai envie d'ajouter, continue de le faire. Leur nouvel album, après 5 ans de silence, s'appelle A Moon-Shaped Pool. Le groupe, emmené par l'iconoclaste Thom Yorke, chanteur à la voix, comment décrire, entêtante, enivrante, angoissante, signe donc un nouvel opus qui montre toujours combien il maîtrise mieux que n'importe quel autre groupe. Cette manière de donner forme à cette sorte de mélancolie résolument moderne qui nous hante tous, la preuve d'ailleurs dans leur nouveau clip du morceau Daydreaming, où l'on voit Thom Yorke errer sans but, sans fin, pendant plus de 6 minutes dans des portes ouvertes à travers les lieux de notre modernité désenchantée, des supermarchés, des parkings, des laveries. Des maisons de retraite, mais aussi grâce à ce titre un peu moins connu, Glass Eyes.
Got off the train, a frightening place. The faces are concrete gray, and I'm wondering, should I turn around, buy another ticket? The panic is coming on strong, so call me inside out. No great German message coming in, and the oh so small, glassy-eyed light. Glassy-eyed light of day. The path trails off and heads down the mountain through the dry bush. I don't know.
Glass Eyes, A Moon-Shaped Pool, c'est le nouvel album de Radiohead. Radiohead qui donc a sorti cet album un peu précipitamment, comme toujours à la suite d'une fuite sur Internet, et qui va être en concert dans toute l'Europe le 23 et le 24 mai au Zénith de Paris, le 1er juin aux Nuits de Fourvière. Ça s'annonce extrêmement beau, et ensuite partout ailleurs en Europe.
Et qui met même parfois volontairement des choses sur Internet. Merci Zoé, à demain pour un nouveau disque du jour.
Ping-pong.
C'est déjà fini.
Merci beaucoup à tous deux, Marina Devant et Stanislas Nordet. Stanislas Nordet aux côtés de Falk Richter et d'une épatante, ébouriffante et transgressive distribution. Vous mettez en scène Je suis Fassbinder de Falk Richter au Théâtre de la Colline à Paris jusqu'au 4 juin. Quant à vous, Marina Devant, vous êtes donc l'auteur de Rose Minuit, votre nouveau roman aux éditions Alia.
Le ping-pong est un corps radiophonique qui se constitue en équipe. Et quelle équipe ? À la rédaction Aïssat Wendoy, Hélène Delis et Mathilde Cadreau. À la réalisation et la programmation musicale Thomas Beau. À la prise de son ce soir, Élise Le et Jacques Hubert.
Le ping-pong se pratique aussi sur le réseau interconnecté et est à réécouter pour l'émission de ce soir pendant l'éternité et un jour. Mais quid de notre beau lendemain, Mathilde ?
Demain, la poétesse iranienne Roja Chamankar et les poèmes musicaux du chanteur Babix.